Ma préférence, Tiffaine Le Maine, bonjour. Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie. Bienvenue sur Esprit Occitanie pour cette nouvelle année. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée Chloé.
Bonne rentrée Tiffaine.
Aujourd'hui, en plus de toutes les rubriques habituelles, je vous propose de découvrir une rétrospective du Festival international du film de fiction historique qui s'est tenu à Plaisance-du-Touche du 21 au 24 septembre 2022. Alors à cette occasion, nous avons pu voir de nombreux films en avant-première et rencontrer les réalisateurs et les acteurs qui y ont contribué. On vous propose donc de partir à la découverte de ces nouvelles œuvres à venir. Mais avant toute chose, commençons par notre rubrique théâtrale, la première de cette année, en compagnie de Chloé Cardinaux. Bonjour.
Super,
Chloé.
Super, bonjour, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour cette rubrique théâtre, comme l'année dernière. Et alors, je vais commencer cette rentrée en grande pompe, parce qu'il y a vraiment plein de choses. J'ai dû faire un choix et j'ai pas trop réussi, j'avoue, donc ça va peut-être être un peu long. Mais on va commencer par un premier spectacle au Grenier Théâtre, que je parle souvent de ce théâtre. Donc, c'est à Toulouse, dans le quartier de Argoulé. Le métro le plus proche, c'est Argoulé. Et il faut que je sois plus proche du micro. Hop, je me rapproche. Et alors avec le spectacle Le Guetteur Mélancolique, c'est la compagnie du Grenier de Toulouse, mais c'est bien au Grenier Théâtre. Donc le spectacle se passera là. Et alors les dates, c'est du 6 octobre au 22 octobre, donc vous avez vraiment le temps de le voir, à 20h30 du mercredi au samedi. De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? C'est avec l'acteur Loïc Carcassès. Je ne sais pas si tu le connais, Tiffaine. Tu l'as déjà vu jouer peut-être?
Ça ne me dit absolument rien. C'est l'occasion, c'est peut-être le cas. Mais...
Peut-être au Grenier de Toulouse, il joue souvent à l'Escale. Et c'est un super comédien. Et donc là, c'est sur Apollinaire. C'est sur la vie d'Apollinaire. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, en 1916 exactement, il se prend un coup de... il est grièvement blessé par un éclat d'obus allemand dans une tranchée de première ligne. Et du coup, de là, ils ont imaginé un flashback et il va se remémorer sa vie au travers de tous ses poèmes. C'est un registre de poèmes, en fait. Et il parle de lui. Donc, j'ai entendu une interview de Loïc Carcassès qui disait qu'Apollinaire était un bon mangeur, un bon vivant, un bon rieur. J'ai retenu ça, ce qu'il disait, qu'on entendait apparemment son rire de loin, qu'on le reconnaissait bien. Et donc, il s'est mis en scène par Hervé van der Mullen, que je ne connais pas non plus, mais je vais aller le découvrir. Et ça a l'air très, très beau. J'en ai parlé avec une amie qui a vu le spectacle et c'est donc un seul en scène. Donc c'est instructif, autobiographique et je pense que ça va être très très bien joué. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, en suivant le mois, il y a la compagnie du Grand E-Théâtre dont je fais partie qui fait de l'improvisation, qui va commencer sa saison aussi au Fil à Plomb. Donc c'est une semaine tous les deux mois cette fois-ci, du mercredi au samedi. Ça commence la première semaine en octobre, donc du 12 au 15 octobre à 20h30, avec un spectacle qui s'appelle Good Morning. Good Morning, avec mon accent un peu pas terrible. Et ça se joue à trois comédiens. Et ça va être plusieurs réveils de comédiens, de personnages, des réveils dans des lieux différents à chaque fois. En fait, on part de rien pour le coup. Là, je le joue à deux dates, je crois. Je connais bien le spectacle. C'est vraiment, on s'endort au début du spectacle. On fait le vide dans notre tête. Et quand le public dit « Good morning », eh ben on se réveille et là, on crée tout sur le moment. On ne sait pas ce qui se passe, mais on joue avec nos sensations du moment, ce qu'on est. Et, en fait, tout se crée vraiment. On ne demande rien au public, pour le coup. Ce n'est pas comme les spectacles qu'on fait d'habitude où on demande parfois un truc au public, un lieu, une action. Ben là, c'est vraiment tout se crée sur le moment. Donc, c'est vraiment du naturel. C'est souvent joué de manière naturelle, tout ça. Et ça, c'est donc, ça dure 1h15 à peu près, c'est entre 9 et 13 euros au Fil à Plomb. Voilà, j'espère que je vais m'expliquer. Ensuite, dans le mois qui suit, donc il y a un truc qui est un événement vraiment chouette là, vraiment que je vais aller voir. Ça s'appelle Rêve 95. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Absolument pas. Alors,
une compagnie qui s'appelle la Compagnie A, qui fait plein de spectacles, j'ai parfois parlé d'eux. Et ils ont créé un spectacle, c'est Pierrot Corpel qui dirige cette compagnie. Il a écrit et mis en scène ce spectacle qui parle de... Alors, je vais vous lire le résumé le résumé exact qu'il y a sur leur site. C'est l'histoire de quatre potes qui découvrent les raves en 1995, une partie de notre histoire racontée en mode théâtre immersif. Et ça va se jouer exceptionnellement sur Toulouse, dans une boîte de nuit, parce qu'ils se mettent en mode vraiment immersif, et c'est dans la boîte de nuit, le Nine Club. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, les filles, parce que vous êtes plus jeunes que moi, vous allez peut-être plus souvent en boîte de nuit. Et donc, c'est une boîte de nuit vers le lac de Sesquières, je crois. Et donc là, c'est vraiment le concept, c'est un théâtre immersif. On plonge au cœur de la pièce de théâtre et des années 90. Donc, vous n'étiez peut-être pas née.
Je suis née fin 90.
Voilà, c'est ça.
Moi, 2000, donc.
Et voilà, mais moi, c'est vraiment mes années de quand j'étais... Mais moi, j'étais petite à ce moment-là, donc je ne connais pas l'univers des rave parties. Mais je vais aller découvrir ça. Et alors, à 19h, il y a l'ouverture des portes et du bar du Nine Club. Donc, on peut un peu boire des coups avant. L'alcool à consommer avec modération, bien sûr.
Histoire de se mettre en condition.
Exactement. À 20h précise, début de la pièce de théâtre. Et à 22h, fin de la pièce, départ du Nine Club. Donc direct, en fait, après la pièce, on est déjà dans un mode de fête et on continue la fête comme si on restait dans le spectacle. Et ça va être super chouette. J'imagine, c'est 25€ la place avec une conso gratuite, plus l'entrée au Nine Club, gratuite avec la place de spectacle.
Et c'est une expérience.
Et c'est vraiment une expérience. Et les acteurs, alors, c'est que des super personnes. Il y a notamment donc, Sylvain Borins, qui fait partie de ma compagnie, qui est super aussi. Rose-Hélène Michon, Maxime Calvé, Ibrahim Hadj Taïeb, pardon pour d'avoir écorché son nom, Fabrice Chikaoui, Magali Lopez, Samuel Mathieu, Joanne Nicole, que des gens super forts. Enfin, moi, je les ai tous vus jouer dans différents spectacles et ils sont top. Donc, franchement, à ne pas rater. Et est-ce que j'ai dit les dates? Je ne suis pas bien sûre. Il y en a deux. C'est les samedis 15 et 29 novembre et le jeudi 10 novembre. Samedi 15 et 29 octobre. Pardon, et le jeudi 10 novembre. Voilà. Ah, mais allez sur le site du Nine Club, je pense, sur aussi le site de la compagnie A. Sur Facebook, il y a un événement qui s'appelle Rave 95, vous le trouverez facilement. Une dernière chose peut-être, je peux parler, oui, au pavé, il y a le spectacle Elle, du 25 au 29 octobre, au Théâtre du Pavé à Saint-Agne, à 20h30. Et c'est un spectacle qui a été écrit et mis en scène par Muriel Darras, une super comédienne de Toulouse. Et c'est sur le thème de la transidentité. Alors, le résumé, c'est Louis est né, lui. Mais ce rêve, elle. Elle est Louis et Louis est elle. Elle est une femme. Elle, c'est l'histoire d'une femme qui a pour particularité d'être née assignée homme. Elle, c'est l'histoire de Louis et de son grand frère Alexandre. Elle, c'est l'histoire de leur famille. Elle, c'est son prénom. Elle, et elle, c'est son histoire. Et donc, ils ont vraiment joué avec ce jeu de mots, tout ça. Et puis, moi, j'ai entendu la lecture. C'était très beau. Et avec Joanne Guillet, si je ne me trompe pas dans le nom de famille, qui joue le rôle de elle. Et elle est super, c'est le cas de le dire. Déjà en lecture, c'était très fort, c'était très émouvant. Donc j'imagine que ça va envoyer du lourd. Donc n'hésitez pas à aller voir ça.
C'est quand les dates?
C'est du 25 au 29 octobre au pavé. Et une dernière petite chose éventuellement, si vous êtes de Montauban, parce que c'est, si vous n'avez pas l'occasion toujours de bouger jusqu'à Toulouse, pour venir voir des spectacles, il y a un super spectacle qui s'appelle « Êtes-vous bien attentif ?» de magie, d'illusion et de mentalisme qui se passe le 29 octobre. C'est Mathieu Stepson qui nous propose ça. Et c'est au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban, donc 4 places Lefranc de Pompignan. C'est une grande et belle salle. Et pour avoir vu le spectacle à Caen, parce que lui, c'est un Normand, il ne vient pas du tout d'ici. Et donc, j'ai été voir son spectacle et c'était impressionnant. On se demande vraiment comment il fait, c'est même un peu énervant. Et donc, il y a pas mal de grandes illusions. C'est beau, je pense que dans un théâtre pareil, ça doit être chouette à voir. Et ça, c'est donc le 29 octobre et je crois que c'est à 20h30 aussi. Vous pouvez aller voir sur le site du Théâtre Olympe de Gouges ou sur le site de Mathieu Stepson directement. C'est un magicien qui a fait incroyable talent. Donc, d'accord. On l'a peut-être vu à l'époque.
Un peu de magie avant Halloween.
Voilà, j'ai fait un peu plein de choses. Allez, je laisse la place.
Merci beaucoup. Là, on est... Là c'est très varié. Avant de commencer un petit peu notre rubrique rétrospective du festival, on va faire une petite pause musicale. C'est vous qui avez choisi le morceau, Chloé. Donc, je vous redonne la parole.
Alors, oui, je propose d'écouter un morceau de Banana Shrimp. C'est une chanteuse qui s'appelle Amandine Richard, en vrai. Ouais, je donne son blaze. Elle va m'en vouloir, j'espère pas. Et sa chanson, c'est Pyjama. J'adore cette chanson. À chaque fois, je l'écoute chez moi et je la chante à tue-tête. Donc, je voulais vous la faire découvrir parce qu'en plus, Amandine est une super personne.
Comme ça, on chante à tue-tête avec vous.
Je n'ai pas voté le projet pyjama, sauf ceux avec des imprimés banana. Qu'est-ce que tu caches sous ton pyjama? Ça ne vient pas de la planète banana. Des petits bébés, on porte des surpyjamas. Demande à ta maman ou même au Dalai Lama. Mes copines Johanna, Rihanna, Tatiana, Alvina s'enveloppent la banana la nuit venant tel un shawarma. Le pyjama sur moi, je le vis comme un trauma. Comme les bandanas me donnent des envies d'assassinat. Me filent des crises d'eczéma, me donnent mal à l'estomac. Rien pour me calmer, ni le yoga, ni la banana.
N'achète pas de pyjama, ne porte pas de pyjama. Tu mourras trempé dans ton pyjama. Je m'en bats les pyjamas. N'achète pas de pyjama, ne porte pas de pyjama. Tu mourras trempé dans ton pyjama. Je m'en bats les pyjamas.
Les complotistes me donnent la banana, mais laisse-moi dénoncer le pyjama. J'aurais pu aller cultiver l'ananas, planquer des impôts m'élever au Panama. Depuis quand est devenu tabou la nudité? Nos peaux, nos corps sans contact vont finir par s'oublier. Dis-moi chérie, où s'en est allé ton sexe à pile? Sûrement en train de pointer au pyjamique anonyme. Je dénonce au effort la stratégie du pyjama, qui s'insinue discrètement au début à l'air sympa. Et
dispo trois fois en frais, couleur choco, pistache Havana.
Et quand on le remercie, ne veut plus quitter son quinquennat.
N'achète pas de pyjama, ne porte pas de pyjama. Tu mourras étranglé dans ton pyjama. Je suis pas les pyjamas.
Trump porte des pyjamas. Poutine porte des pyjamas. Ma grand-mère, pyjama. Mon banquier, pyjama. Ouragan, pyjama. Tsunami, pyjama. Guerre mondiale, pyjama. Brexit, pyjama. Fukushima, pyjama. Crève des trains, pyjama. Titanic, pyjama. Gilet jaune, pyjama. Notre-Dame, pyjama. Myrmidien, pyjama. Plus batterie, pyjama. Lundi, pyjama. Perte d'emploi, pyjama. Pôle emploi, pyjama. TV, pyjama. Huissier, pyjama. Divorce, pyjama. La rue, pyjama. Qu'il soit pyjama. Pas le choix, pyjama. Tu ne vois plus pyjama. Je vais décéder seul dans mon pyjama.
N'achète pas le pyjama. Ne porte pas de pyjama. Pyjama, 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 pyjama.
Ça s'arrête brusquement en plus.
Merci beaucoup pour ce morceau. On est, ça peut hériter du rap, non? Du hip-hop
Peut-être. Et elle fait tout toute seule. Elle a une loop station, là. Je ne sais pas si tu connais
oui,
ça.
Oui, je connais complètement.
Et c'est super.
D'accord. Alors, avant toute chose, c'est quoi le Festival international de fiction historique? C'est un festival qui a été créé en 2015 et qui récompense les films de fiction historique. Le festival se veut faire un devoir de mémoire en donnant de la visibilité à des films qui abordent des aspects parfois méconnus de l'histoire. Et dans cette optique, ils ont choisi comme film d'ouverture le film Naufrangin de Rachid Bouchareb. Je ne sais pas si vous connaissez, Chloé.
Non, pas encore.
Et alors, ce film-là, il revient sur une affaire que personnellement, je ne connaissais pas, qui est l'affaire Malik Houssekine et Abdel Ben Yahia. Alors, ces deux affaires, elles ont pris place en 1986 pendant les manifestations étudiantes contre la loi de Vaquet. Et en fait, Malik et Abdel, ce sont deux jeunes qui ont été victimes de violences policières et qui sont morts tous les deux. Donc Malik de Tabassage et Abdel tué par balle, en fait, par un policier qui était ivre. Et ces deux affaires, alors il y en a une qui a été très médiatisée à l'époque et une qui n'a pas du tout été médiatisée. Et à cette occasion, donc ils ont projeté ce film, et à cette occasion, ils ont invité Noël Mamère et David Defrenne. Donc Noël Mamère, c'est le journaliste qui a couvert l'affaire à cette époque, et David Defrenne, il a fait un énorme travail de documentation sur les violences policières, notamment un documentaire qui s'appelle « Quand Paris s'embrase ». Et donc, à cette occasion, nous, on a pu les rencontrer avec notre technicienne chez Liane. Et on vous propose d'écouter notre interview de ces messieurs qui est un petit peu partie en table ronde, un petit peu comme une discussion au bout d'un certain moment parce qu'ils étaient très, très sympathiques et ils nous posaient aussi beaucoup de questions. Donc, on vous propose d'écouter ça.
Est-ce que vous pensez que ce film, justement, il a un peu une... comment dire ? On va dire une intention, mais d'alerter un peu sur cette situation en France.
Moi, je crois que c'est surtout un film sentimental. Je pense que je ne connais pas du tout le réalisateur, je connais ses films, mais je ne le connais pas personnellement. J'imagine qu'il a été marqué par cette histoire-là, et qu'un jour, il a dû se dire, un jour, je ferai un film là-dessus. Mais pour autant, ce que je trouve très fort, c'est que c'est un film moderne. C'est-à-dire que ce n'est pas un film... uniquement générationnel. La preuve, c'est que vous avez été transporté ou ému ou intéressé, et qu'en effet, ça peut servir de base de discussion pour parler d'aujourd'hui.
Oui, parce que la perception de ces jeunes Français issus de l'immigration, elle est toujours quand même, il est toujours un regard suspicieux. Hein, on dit d'ailleurs qu'ils se sont bien intégrés, mais attendez, on n'a pas leur, ils sont pas. Ils sont intégrés, ils sont des Français, donc ils sont beaucoup plus intégrés qu'un Portugais qui vient passer quelques années de sa vie ici, ou un Italien ou un Espagnol. Et je pense que Rachid Boucharem, qui est, comme l'a dit souvent David, très, très sensible aux questions, aux injustices, et en particulier aux injustices dont sont victimes une partie de notre population que l'on stigmatise en permanence, que l'on criminalise, et que bien souvent certains partis politiques considèrent comme des étrangers de l'intérieur. C'est ça, en fait. Je pense qu'il appelle Frangin, parce que c'est vrai, c'est une histoire de Frangin, mais c'est lui leur Frangin, leur grand Frangin. Mmh. Ouais. C'est ça le fond. Il se sent lui-même, de par ce qu'il est, de par son histoire, il se sent lui-même humilié. Et... cela dit, je me demande, Frangin, c'est un terme que vous employez ou pas ?
Non.
Pas trop, hein ?
Pas,
non, c'est vrai, ouais. Là, au moment où tu dis ça, je me dis, en fait, c'est quand même un mot qui est un peu daté.
Oui,
Frangin, c'est ouais. C'est marrant, hein ?
Mais on le disait.
Chaque génération a son nom.
Ouais, bien sûr.
Frangin, ouais.
Non, c'est vrai que nous, on ne l'utilise plus.
Oui, mais vous avez des mots différents aujourd'hui.
Oui,
mais c'est marrant, parce que je trouve que ça... ça donne au film une coloration qu'il n'a pas, en fait.
Après, ça ancre le film...
oui, c'est vrai, dans l'époque. Oui, c'est vrai.
Pas aussi, oui.
Mais il est très actuel, ce film. Ça, ouais. C'est sans doute sa réussite. Et c'est là qu'on découvre le talent, quand il en avait, de Renaud. Sa chanson est formidable.
Et oui, je me demandais pourquoi le projet, en fait, j'ai compris en écoutant le morceau de Renaud.
Et dans le même temps... c'est étrange de mettre Renaud. Parce que cette chanson qui date de cette période-là, à peu près, Renaud, d'une certaine manière, il a accompagné l'évolution de la société française. Aujourd'hui, Renaud, il est pro-flic.
Après, moi, ça ne me choque pas parce que Renaud, il était quand même très, très engagé
oui, mais
à l'époque. Quoi,
dans les années 70-80,
ouais, complètement viré après.
Dans les années 70-80, c'était le chanteur Loubar, enfin bon, les HLM, etc. Et il va faire cette chanson, J'ai embrassé un flic, après, évidemment, les événements de 2015, etc. Mais c'est très intéressant parce que les policiers, par exemple, parlent souvent de cette chanson en disant « Mais on ne comprend pas, vous nous traitiez en héros en 2015 et trois ans plus tard, quand on maintient l'ordre contre les gilets jaunes, on devient les derniers salopards. » Et c'est très intéressant cette chanson de Renaud parce que je trouve que sociologiquement, elle raconte comment une partie de la gauche a basculé quand même dans, du côté de l'ordre, du côté...
C'est celui qui incarne le plus, c'est Valls.
C'est Valls, ouais.
C'est un virage... C'est un néoconservateur, c'est un virage sidérant.
Sidérant. Et il n'est pas le seul. Hein. Aujourd'hui, il y a toute une série de gens, hein, des intellectuels français, qui ont droit de citer quasiment leur entière vie dans les médias, qui tiennent le même discours.
Ouais. Mais qu'on catalogue toujours de gauche.
Au nom de l'universalisme et de la République.
Ouais.
Voilà.
Après, je voulais juste poser une question aussi. Alors, c'est par rapport à un truc que vous disiez un peu après le film. Que vous expliquiez que comme il n'y avait plus de redevances TV, en fait il n'y avait plus de services publics, il y a quand même un énorme travail de documentation qui a été fait pour ce film. Est-ce que, si jamais une telle histoire se reproduit, et il y a quand même, j'ai l'impression, de grandes chances que ça se reproduise, est-ce que vous pensez que dans le futur on pourra encore faire un tel travail de documentation sans service public, sans redevances ?
Bah moi j'ai fait un film uniquement à base de... d'images amateurs ou semi-professionnelles, la révolution du téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quelque chose comme Malik Ousekine, il y a des chances pour qu'il y ait beaucoup plus d'images. En fait, à l'époque, il n'y avait que France 2, mais il y avait France 2 qui filmait, etc. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est pas la production d'images, c'est qui diffuse, qui décide. Donc, sur les réseaux sociaux, vous décidez vous-même, et ça c'est une liberté incroyable.
Aujourd'hui on n'a plus le droit de filmer les forces de l'ordre.
Si, si.
Ah si, on a nouveau le droit.
Vous voyez, là aussi...
Ils ont tenté de vous dire.
Oui, ils ont tenté.
Vous avez toujours le droit. Non, ils ont tenté, non pas d'empêcher de filmer, mais d'empêcher justement de diffuser. Mmh. Parce qu'ils ont bien compris que c'était ça le problème, c'était la diffusion.
C'est l'histoire de ce black qui se fait agresser par les flics dans son studio d'enregistrement.
Oui,
s'il n'y avait pas eu, voilà. S'il y avait pas eu les images, et c'est comme ça qu'est né Brut, le réseau Brut.
Donc, la difficulté, c'est que y a quand même, c'est quand même une arme inégale. Voilà. C'est-à-dire que même si tous les citoyens peuvent filmer, peuvent diffuser, il y a quand même en face une machine médiatique extrêmement forte qui, de plus en plus, se sent elle-même menacée par la contestation et défend un ordre établi qui lui convient, c'est-à-dire le statu quo. Et donc c'est là où il y a, je pense, hein, où il y a en ce moment une friction très forte. Mais,
mais la fin de la redevance, c'est moins pour la documentation qu'on peut trouver... comme le dit David, dans les réseaux sociaux, Alina, etc. Mais la fin de la suppression de la redevance, ça peut arriver à terme effectivement à une réduction des moyens accordés au service public, qui ne pourra plus faire de grandes enquêtes, et donc qui ne pourra plus remplir sa mission d'information. C'est ça le problème, parce que les grandes enquêtes, un reportage d'investigation, ça coûte de l'argent.
Ou alors ce sera disponible, mais que moyennant un certain...
Que pour non, ça sera un affaiblissement du service public, qui d'ailleurs commence déjà. Ça, il n'a pas attendu la fin de la redevance pour s'aligner beaucoup sur le privé. On est dans une concurrence, c'est la course à l'échalote entre les réseaux sociaux et les médias. Et c'est comme ça qu'ont prospéré les télés d'information continue, qui sont... il ne se passe rien. Alors j'appelle le correspondant, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Bon, mais ça fait une image.
Ouais, c'est ça.
C'est le sapeur camembert, remplit les trous, véhicule la conception d'un monde qui ne peut pas se passer l'image. Donc il faut toujours qu'il y ait des images. Et pour que toujours il y ait des images, il faut toujours qu'il y ait une information. Et il faut que chaque... La moindre... Nous, à mon époque, je suis l'ancien combattant, il y a des choses qui n'arrivent... Il y a des événements, des faits, qui n'arrivaient pas au statut d'information. Parce qu'on considérait que ça n'avait aucun intérêt pour éclairer l'opinion. Mais aujourd'hui, le moindre petit truc, c'est... Ça accède aux rangs d'information, et puis ils vont vous en faire toute une soirée sur le gars qui a tué son chien. Alors après, vous avez des experts. Vous savez, tous les experts. Les experts, il a mordu son chien, donc qu'est-ce qu'il faut faire comme moi, machin, c'est... Bon, on va peut-être aller continuer à ce cocktail, nous.
Oui.
Vous posez une dernière question.
Ah, une dernière.
Sur cette question, on dit souvent qu'il faut tenir compte du passé pour aller de l'avant. Est-ce qu'aujourd'hui on le fait assez ou est-ce qu'on régresse?
Moi, je pense qu'on est dans un monde amnésique qui n'aime pas sa mémoire. D'ailleurs, la France est un pays qui, par rapport à d'autres pays, a beaucoup de difficultés à revenir sur sa mémoire, en particulier la mémoire coloniale. Mmh. Et il n'a toujours pas réglé ce problème. Donc, quand la mémoire n'est pas honorable, enfin, quand elle nous gêne, on préfère l'occulter. Et la France, de ce point de vue, a beaucoup de difficultés. Mais le problème, ça, c'est un problème que nous, on connaît tous les deux, David comme moi, parce qu'il a été journaliste et moi aussi. C'est que s'il y a une dérive dans le journalisme, alors peut-être qu'à notre époque déjà on n'était pas admirable, mais c'est que ça va tellement vite. Nous, on n'avait pas besoin d'aller aussi vite parce qu'il y avait moins de chaînes, moins de moyens techniques, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais là, il y a beaucoup de moyens techniques. Donc, il faut aller vite. Et pour aller vite, eh bien, on fait des ellipses, on simplifie. Donc, ça veut dire qu'on ne donne pas le temps. On ne prend pas le temps d'expliquer, de contextualiser les événements. Et donc les gens prennent ça en pleine tête. Et au lieu de les informer, on les désinforme en fait. C'est ça le... Ouais. Au lieu de les éclairer, on les éteint. Ouais.
Ou alors on manipule un peu...
Non, parce que je citais un prof qui a étudié ça. Il nous expliquait que par exemple... Une bagnole, les pubs sur les bagnoles dans les années 80 ou 90, c'était une somme d'éléments techniques. Vous avez toujours écouté, c'est machin truc, je connais pas les termes techniques, mais il y a tellement de termes techniques qui sont donnés qu'à la fin vous dites putain, c'est une super bagnole. C'est fait pour vous noyer. Vous êtes noyé sur la somme d'informations auxquelles vous ne comprenez rien parce qu'on ne vous donne pas le temps d'y comprendre. Vous les jettez comme ça.
Voilà, c'était deux messieurs absolument charmants. Bon, on aurait aimé pouvoir discuter un petit peu plus longtemps avec eux, nous avons un peu scotché sur la fin. C'est maintenant l'heure de notre rubrique littérature avec Pascal Sabatier qui est en ligne, normalement.
Bonsoir.
Allô Pascal.
Michel.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ravi de vous retrouver, de reprendre la chronique. Ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes lectures d'été, puisqu'on ne s'est pas vu, enfin on ne s'est pas entendu plutôt depuis le mois de juin, si je ne m'abuse. Et je vais vous parler de deux lectures qui m'ont particulièrement touchée. Alors je les ai associées, parce qu'elles ont un point commun, c'est la paternité pour le premier roman et la maternité pour le deuxième. Mais les histoires n'ont absolument aucun point commun par contre. Le premier roman est un roman américain, il est sorti au mois de mars aux éditions du Chez Chastel et il s'intitule Le silence des repentis. Il est écrit par une autrice qui s'appelle Kimmy Cunningham Grant. Alors ce livre, c'est l'histoire de Cooper, c'est un vétéran d'Afghanistan, et de Finch, sa fille de 8 ans. On apprend assez vite que ce sont des noms d'emprunt, je ne vous raconte pas pourquoi. Ils vivent tous les deux dans une cabane au milieu des forêts, isolés complètement de la cité. Depuis que Finch est bébé. En effet, Cooper n'a pas eu d'autre choix que d'élever sa fille entièrement coupée du monde comme ça, mais il ne lui a jamais révélé les véritables raisons qui les ont amenés là. Les deux seules personnes que Finch et Cooper côtoient sont Scotland, un voisin assez étrange, qui fait rapidement comprendre à Cooper qu'il connaît son histoire et qu'il va devenir une espèce de menace. Et puis il y a Jake, qui est son frère d'armes, qui est son meilleur ami aussi, et c'est lui le propriétaire de la cabane en fait. Et lui, il les ravitaille une fois par an. Mais cette année-là, Jake ne vient pas. Il va falloir donc sortir. De plus, Finch a terriblement envie de voir le vaste monde. Elle a 8 ans et elle commence à trouver le temps long toute seule dans sa forêt. Et puis donc là, à partir de ce moment-là, les ennuis ne font que commencer. Donc je ne vous en raconte pas plus, il faut quand même ménager un peu de suspense, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un énorme coup de cœur et beaucoup de tendresse pour ce duo père-fille. Alors ils sont totalement fusionnels, on se doute pourquoi, parce que c'est dû un peu à leur isolement. Mais Cooper, cet homme, il est très abîmé, là aussi, il est très abîmé par des actes qu'il a dû commettre, mais il est entier et ses actes le hantent. Mais Finch et cette gamine un peu sauvage, mais extrêmement éveillée, sont très très attachants. Elle est elle est curieuse, elle est proche de la nature, elle est terriblement sympathique, et son papa aussi, ils sont vraiment adorables tous les deux. Alors c'est un roman qui est quand même sous tension, il y a ce voisin qui reste toujours très menaçant, on comprendra pourquoi plus tard. Il est totalement addictif, hein, ça reste une espèce de roman noir à suspense, c'est pas vraiment un polar.